Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
9h, en ce samedi, c'est Sébastien Krebs qui vous informe. Bonjour Sébastien.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, la mort au combat d'un soldat français au Mali, le 52e tué au Sahel. Le caporal-chef Maxime Blasco avait été décoré pour des actes héroïques. L'inquiétude des habitants de Seine-Saint-Denis après la réinstallation des toxicomanes du jardin d'Éole aux portes de Paris. Un mur a même dû être construit en urgence pour barrer le passage. Et puis l'appel au calme des acteurs de la Ligue 1 de football avant la 8e journée qui débute par le déplacement des Niçois à Saint-Étienne.
Il s'appelait donc Maxime Blasco, il avait 34 ans, il était tireur d'élite. C'est l'Élysée qui a annoncé sa mort hier soir en faisant part de la vive émotion du président de la République. Le caporal-chef est tombé au Mali dans une embuscade. Un soldat dont l'armée de terre salue les actions héroïques. Il avait notamment frôlé la mort dans un accident d'hélicoptère à l'été 2020. Écoutez, il le racontait dans un reportage de France 2.
Et à ce moment-là, j'étais encore un peu dehors et en train de tirer. Quand on commence à s'éloigner, approcher du sol, je rentre bien les jambes dedans et je m'accroche au siège du chef de bord en me disant de toute manière, ça va être l'impact assuré. Donc j'ai accepté. Je me disais, de toute façon, ça se finit aujourd'hui.
Vous vous dites que vous allez mourir?
Oui, clairement. C'est la fin de ma courte vie.
Un témoignage très fort de ce soldat expérimenté, habitué à des missions délicates. Écoutez les précisions du général Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
Ce caporal-chef qui avait été déjà blessé, plusieurs fois cité, avait reçu la médaille militaire du président de la République, ce qui est exceptionnel. Donc c'était un soldat, un commando du 7e bataillon de chasseurs alpins, particulièrement valeureux, et qui a donné sa vie au combat pour la mission qu'on lui avait demandé de remplir. Il s'agissait de poursuivre des djihadistes dans une zone où les djihadistes sont bousculés, où un certain nombre de ses chefs ont été tués. Et c'est dans cette action que le commando a été tué.
Le général Trinquant, joint pour RTL par Clarence Rodriguez, la porte à 52, le nombre de soldats tués au Sahel depuis 2013.
L'autre grand titre ce matin, Sébastien, c'est un problème sans cesse repoussé.
Hier, la cinquantaine de toxicomanes qui étaient installés depuis des semaines en pleine rue aux abords du jardin des Halles à Paris ont été évacués, mais simplement réinstallés un peu plus loin aux portes de la Seine-Saint-Denis. Vous avez entendu sur RTL la colère du maire de Pantin qui craint pour la sécurité des riverains. Valentin Boisset, vous êtes sur place ce matin, porte de la Villette pour RTL. Et il a même fallu construire un mur pour barrer le passage sous le périphérique.
Oui Sébastien, un mur de briques monté à la hâte hier par les services de Pantin. On voit encore d'ailleurs ce matin le ciment frais dans les jointures, une frontière physique de plusieurs mètres de haut entre la Seine-Saint-Denis et Paris. Alors du côté du 93 à Pantin, cela semble avoir fonctionné. Le quartier résidentiel est pour le moment épargné des toxicomanes, mais du côté du parc de la Villette, un parc très fréquenté par les familles le week-end, c'est une autre histoire. 128 fumeurs de crack y ont été parqués hier. Ils dorment actuellement à même le sol. Ils ont fait la fête toute la nuit selon les riverains. Olivier est venu constater ce matin la construction du mur. Une fausse solution pour cet habitant de Stalingrad.
C'est pas une solution. On connaît le mur de Merlin, on connaît... C'est pas ça qui va empêcher qu'ils contourneront le mur. Ça va pas... La nuit dernière, ça va pas empêcher le fait qu'ils fassent du bruit.
Attends, en arrivant, j'en ai vu quelques-uns déjà.
C'est clair que j'ai entendu qu'ils en avaient déplacé 100. Ils sont au moins 200, donc forcément que le reste tourne, reste dans les quartiers, etc.
Un éparpillement qui se constate ce matin un peu partout lorsqu'on se balade. Beaucoup de toxicomanes errent désormais seuls dans les rues de ce nouveau territoire que la préfecture leur a assigné hier.
Valentin Boisset en direct de la porte de la Villette à Paris pour RTL.
L'actualité politique à présent et les Républicains qui vont enfin trancher.
Y aura-t-il une primaire ou un simple congrès pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle? Ça y est, les LR décident. 80 000 adhérents du parti votent depuis hier soir. Les résultats seront annoncés à 18h30. Quant aux Verts, ils votent eux aussi ce week-end pour le second tour de la primaire écologiste entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Le scrutin est ouvert jusqu'à mardi.
Et puis il continue d'occuper le terrain et d'attirer la lumière médiatique. C'est une visite quasi diplomatique qu'a faite hier Éric Zemmour.
Alors même qu'il n'est toujours pas candidat à la présidentielle, le journaliste a été reçu en grande pompe par le très conservateur Premier ministre hongrois Viktor Orban avant de participer à une réunion de la droite conservatrice et identitaire. C'est le RTL événement ce matin. Julien Fautra, vous êtes à Budapest. Vous avez suivi cette visite où l'image était très importante.
Oui, il est midi 20. Le van noir que le Premier ministre hongrois a mis à disposition d'Éric Zemmour franchit la barrière de la résidence de Viktor Orban. Nous sommes sur les hauteurs de la ville. Budapest à perte de vue, le Danube en premier plan et le balai des voitures à vitres teintées. Les groupes de touristes étrangers n'écoutent plus leur guide, demandent qui est-ce Éric Zemmour. Connaît pas. Le polémiste d'extrême droite attise un peu de curiosité, mais sans plus. Il le sait, alors il se montre. Arrivé la vitre baissée, un caméraman le suit pour faire sa promotion et montrer la rencontre avec Orban. Qu'ont-ils évoqué ? L'immigration, l'islam, apôtre l'un et l'autre de la théorie raciste du grand remplacement.
On a parlé d'histoire, des grandes migrations, des mouvements entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre l'Orient et l'Occident, entre la chrétienté et l'islam, des vagues incessantes depuis 1000 ans, des affrontements incessants depuis 1000 ans.
Puis il déjeune à côté de Marion Maréchal. Après Orban, Zemmour fait coup double, une sortie côte à côte devant les caméras. La nièce de Jean-Marie Le Pen est encore très populaire au Rassemblement National. L'ambiance est beaucoup plus froide quelques minutes plus tard. Ne reste que les journalistes français. Les médias des autres pays sont partis quand Éric Zemmour s'exprime à la tribune.
En France, le grand remplacement.
Le grand remplacement. Encore une fois, Marion Maréchal l'écoute dans un coin de cette salle plongée dans la pénombre. Zemmour s'affiche dans la soirée avec un verre de vin au terme d'une visite quasi diplomatique.
RTL événement signé Julien Fautra depuis Budapest.
En Allemagne, c'est la question du week-end qui pour succéder à Angela Merkel.
Élection législative. Demain, la chancelière vante les qualités de son dauphin Armin Laschet. Gage de stabilité selon elle. Il est au coude à coude dans les sondages, mais toujours devancé par le candidat du Parti social-démocrate qui se retrouve en tête pour la première fois depuis 15 ans. Et puis l'éruption du volcan Cumbe Vieja continue de plus belle aux Canaries, avec de violentes explosions, des coulées de lave, de nouveaux quartiers ont dû être évacués et le nuage de cendres a même atteint la France. Il survole depuis hier la Corse et le Sud-Est. Un nuage chargé de dioxyde de soufre, mais à un niveau faible et en altitude, donc sans risque pour les Français, disent les spécialistes.
Vous restez bien là, l'actualité revient dans un instant. Il est 9h07 avec le football et des stades sous surveillance ce week-end pour la 8e journée de Ligue 1.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
On en vient au football, Sébastien, la suite du journal avec des stats sous surveillance pour la 8e journée de Ligue 1.
Elle commence cet après-midi avec un déplacement à risque des supporters niçois à Saint-Étienne. Ils ne seront que 200 autorisés à venir et leurs bus seront escortés par les forces de l'ordre après les débordements et les violences de ces derniers jours. Les appels au calme se multiplient. Écoutez celui de l'attaquant stéphanois à Abi Kazri.
Appeler tout le monde au calme, c'est vrai que on a passé certaines années sans supporters, c'était vraiment triste. Voilà, appeler au calme et dire que c'est une fête avant tout, qu'il n'y ait pas de friction ou quoi que ce soit, parce qu'on n'en a pas besoin et ça reste quand même du football et une fête. Il y a des enfants, moi je sais que les miens viennent au stade et j'aimerais pas qu'à la fin du match ils me demandent pourquoi ça se passe comme ça, qu'il y ait des bagarres. C'est inquiétant parce qu'il faut que ça se calme un peu. C'est vrai que voilà, ces dernières journées, c'est vrai que ça se passe qu'en France. Et je pense qu'on a un championnat qui est compétitif et on le montre avec pas mal de buts chaque journée. Et voilà, on a la chance d'avoir certains beaux publics en Ligue 1 et il faut qu'ils le montrent d'une autre manière que voilà, sur les derniers débordements. Après, c'est des, entre guillemets, quelques cas, donc voilà, faut gommer ça parce que c'est pas forcément beau et que voilà, comme j'aime voir le football, c'est aller au Vélodrome, à Lens ou à Strasbourg ou où que ce soit et qu'il y ait un beau public et qui vous pousse, quoi.
L'appel de Wabi Kazri au micro RTL de Frédéric Perruche. Saint-Etienne-Nice, coup d'envoi 17h, avant Strasbourg-Lille 19h et à 21h Lyon-Lorient et PSG-Montpellier. En l'absence de Lionel Messi, toujours blessé.
Les deux rendez-vous ballonneront sur notre antenne. 18h30, on refait le match Christian Olivier et ses débatteurs. Et 20h RTL Foot, les matchs en direct orchestrés par Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Nous allons à présent à Dunkerque où les pêcheurs se mobilisent aujourd'hui.
Ils vont manifester pour protester contre un projet d'éolienne en mer. Hier, ils étaient déjà plusieurs centaines au Havre et à Cherbourg. À Dunkerque, une quarantaine de mâts doivent être installés à 10 km des côtes d'ici à 2027. Reportage RTL Frank Hanston.
Sur la digue de Malo-les-Bains, l'horizon est pour l'instant dégagé, mais ses habitants s'inquiètent d'un projet démesuré. Pour Stéphane Carr, le chef d'entreprise du collectif Vent Debout, ces éoliennes sont une menace pour l'écosystème marin.
C'est d'abord une pollution visuelle, c'est une pollution maritime, c'est une pollution des fonds marins. Nous sommes excédentaires en énergie électrique. Quel intérêt d'aller glaner quelques kilowatts quand il y aura du vent pour soi-disant faire plaisir à l'Europe.
Ce projet initié par Ségolène Royal a le soutien de la mairie de Dunkerque qui défend une plateforme d'énergie renouvelable. Ses promoteurs ont pris des engagements pour limiter son impact, mais pas de quoi rassurer Alexandra Demeret qui a décidé de déménager.
Ce
qu'il y a à Dunkerque, ce qui est magnifique, c'est la plage et puis c'est la mer. Vraiment, notre dernière bulle de respiration, maintenant, on va avoir un mur. Ils industrialisent ce dernier espace naturel. Tous les oiseaux du Nord migrent, passent par là. Personnellement, je prends la décision de déménager parce que je suis écœurée.
Des recours pourraient encore être déposés et les Belges se lancent également dans la bataille.
Franck Hanson à Dunkerque pour RTL.
Et puis on vous présentait tout à l'heure dans le journal de 8h le boulanger lauréat du Grand Prix de la meilleure baguette de Paris.
Il s'appelle Makram Akrout, il est tunisien et c'est lui qui a remporté ce concours choisi par un jury d'experts parmi plus d'une centaine de baguettes tradition parisienne. Sa boulangerie est dans le 12e arrondissement et elle fournira désormais les cuisines de l'Elysée. Voilà, c'est la récompense. Petite séance de dégustation ce matin, on écoute le boulanger lauréat.
Alors la baguette qui a gagné c'est celle-là. Voilà, il n'est pas trop blanche, il n'est pas trop jaune, il n'est pas trop foncé. Il est un peu dur, qu'il est un peu crème comme ça. Et la baguette, il est bien cuite, vous voyez. Ça reste croustillant.
Ça vous dérange pas si on la craque et qu'on la goûte tous les deux ?
Voilà.
Mais elle est succulente.
Ouais.
Elle est incroyable.
Je pense qu'elle a mérité d'être la gagnante. Voilà, c'est la meilleure baguette de Paris. C'est pas un hasard. Voilà, il y a le goût de levain. Il y a un peu de levain naturel qu'elle a fait elle-même. Il n'y a pas trop salé.
Donc il n'y a pas un petit secret que vous avez pour avoir cette baguette aussi bonne ?
Non, franchement, il n'y a pas un petit secret. J'ai respecté tout, voilà, toutes les étapes. Il n'y a pas de baguette magique.
Pas de baguette magique, mais celle-là, elle a assez magique quand même. Les boulangers de Reuilly, c'est dans le 12e arrondissement, si vous voulez aller goûter après l'émission.
Vous le voyez, le...